Troisième partie. Chapitre 1. Antoine Jacquier et André Humbert causèrent longtemps encore sous les platanes, puis ils descendirent, comme le soleil s'inclinait, dans les petits chemins envahis par l'herbe, ombragés ci et là d'un sorbier qui traversait le plateau en tous sens. Se tenant par le bras, ils marchaient lentement, s'arrêtaient, puis, arrivés presque à la haie de groseille pour Antoine, au petit mur de la Touffette pour André, ils revenaient tous deux sur leurs pas et se reconduisaient encore un bout de chemin. Auparavant, ils n'avaient jamais abordé ensemble que des questions d'art ou quelques sujets de camaraderie familière, mais aujourd'hui, ils franchissaient la porte du domaine intime et s'y trouvaient à l'aise l'un chez l'autre. André Humbert n'aurait pas soupçonné chez son ami, si inégal et changeant d'apparence, un fond de chagrin permanent, ni surtout cette intensité dans la lutte morale. Et la douceur de pouvoir parler des choses qui, depuis 4 mois, étaient toute sa vie intérieure, peu à peu l'entraînait bien loin de sa réserve ordinaire. Antoine écoutait, s'étonnait silencieusement. Ses intuitions obscures faisaient écho aux paroles d'André, comme une voûte cachée résonne sous des pas. Il lui semblait que des questions anciennes, qui s'étaient endormies à force d'espérer leur réponse, l'entendaient venir et se réveiller. Mais, au lieu de l'impatience dans laquelle autrefois se faisaient ses réveils, une influence de repos et de paix lui remplissait l'âme. Il sentait l'animosité lui devenir étrangère et la patience facile. Sa belle-mère prenait la forme d'une épreuve abstraite dont on peut parler sans amertume. Quand il quitta son ami, ce fut avec le sentiment que tout était changé. Il rentra, le souper était prêt, on n'attendait que lui. Son père, fatigué des leçons de l'après-midi, mais désireux de se défendre, était enclin à causer. « Tu t'es promené ? » demanda-t-il à Antoine. « As-tu trouvé ton sujet d'aquarelle ?» Et Madame Jacquier, à ce mot d'aquarelle, se pencha au-dessus du plat d'asperges qu'elle était en train de servir pour adresser à son fils un sourire et un petit signe d'intérêt. Il lui plaisait que son mari et son fils fussent des artistes, pourvu que cela n'allât pas trop loin, bien entendu. L'aquarelle, à son point de vue, était innocente, élégante, inodore, tandis que les couleurs à l'huile empestaient la chambre d'Antoine. « Ah, dit-elle, si tu voulais faire une aquarelle pour moi, quelque chose de gentil, de gai, de soigné. Je n'aime pas les taches, c'est malpropre. J'aime un beau fini et de jolis petits coups de pinceau qui ne débordent pas. Tu sais qu'il y a dans le petit salon, à côté de l'étagère, un endroit où le papier est endommagé. Si tu me donnais une de tes aquarelles, je la ferais encadrer pour la suspendre là. Je vous apporterai mon portefeuille et vous choisirez, maman. » répondit-il. Tout était changé en vérité. Il venait, sans trop d'effort, de réprimer une réponse caustique et d'appeler maman sa belle-mère. Son père leva la tête, lui jeta un regard reconnaissant, mais Antoine songeait moins à son père qu'à André, auquel il venait d'envoyer une pensée rapide. Depuis quelques heures, la supériorité d'André Humbert s'imposait à lui comme un but à atteindre. « J'étais sorti, en effet, pour chercher un sujet d'étude, dit-il, mais j'ai rencontré un ancien camarade et j'ai causé avec lui au lieu de dessiner. Tu te souviens d'André Humbert, qui était à ton cours l'hiver dernier, papa ?»« Si je me souviens de mon meilleur élève, et quand je dis élève, c'est une façon de parler, car il travaillait d'une manière très indépendante. Au fond, il ne nous demandait guère qu'une lampe électrique et une table sur laquelle appuyer son carton. » C'est un talent que ce garçon-là, un talent très original et abondant. Et quelle main! Il faut le voir tracer de belles courbes, de belles ellipses régulières, aussi pures que les lignes de l'eau où l'on a jeté une pierre. Oui, ce garçon a le sens de la ligne que tu n'as pas, Antoine. Tu ne comprends que la couleur. Mais, s'il m'en souvient, André Humbert était à l'hôpital il y a quelques semaines. N'es-tu pas allé l'y voir? Il en est sorti. « Guéri, j'espère ?»« Guéri, oui. On lui a amputé sa main malade, la droite. » Monsieur Jacquier poussa une interjection compatissante et sa femme un petit cri d'horreur. Ne parle pas de ces choses à table, Antoine, exclama-t-elle. Tu me gâtes mes asperges. Vous avez trop d'imagination, fit-il. Peut-être, et trop de sensibilité aussi. Autrefois, je me serais évanoui pour un mot comme celui que tu viens de prononcer. Passe-moi ton assiette, Antoine. Je t'ai réservé la plus grosse asperge.
Je n'ai pas faim, dit-il, reculant sa chaise.
Tu vas pourtant rester à table jusqu'à ce que nous ayons fini, dit son père avec quelque âpreté. Tâche d'avoir au moins des manières civilisées.
Ce n'est pas de nos voisines qui les apprendra, murmura sa belle-mère en hochant la tête.
Je ne discerne pas bien à propos de cette remarque, répliqua Antoine, s'apercevant à son irritation montante que rien n'était changé, ni en lui, ni en dehors de lui. Pendant 5 grandes minutes, ils se turent tous trois. Madame Jacquet reprit de la sauce et ce fut le seul incident. Cette petite salle à manger était dans tous ses détails la perfection du genre modeste et commode. La teinte brune de ses boiseries, douce aux yeux mais non trop sombre, le store à guéréures rouges et grises qui permettait de garder la fenêtre ouverte et la lampe à abat-jour argenté d'où la lumière retombait sur la table sans offusquer les yeux des convives et le service de faïence à fleurs avec tous ses petits accessoires, les réchauds du modèle le plus perfectionné, le plat perforé où les asperges s'égouttaient tout doucement, la cafetière russe sur le dressoir, le cordon électrique qui pendait à portée de la main de Madame Jacquier, l'épaisse et fine natte algérienne qui, sous la table, éloignait les pieds du parquet froid, chaque objet et sa place même témoignaient d'un esprit fort attentif à ce qui peut produire la plus grande somme de confort. Madame Jacquier, par sa nature prosaïque, n'était nullement portée au luxe, mais il lui fallait tout ce qui est commode, tout ce qui évite à une maîtresse de maison les mouvements fatigants, ce qui lui tient les yeux, les coudes, les pieds, tout le corps et toute l'âme dans un état d'agréable repos. Pour elle, le poids d'un couteau avait de l'importance et elle avait mis de côté d'anciens verres très beaux, en cristal taillé, dont les facettes aiguës lui agaçaient les doigts, disait-elle. Soigneusement, avec méthode et persévérance, elle se capitonnait contre toutes les sensations désagréables. Si Antoine lui eût témoigné de l'affection, rien lui manquait à son moelleux bien-être. Elle quêtait de petites caresses, de menues attentions par le même instinct qui lui faisait choisir le siège le plus confortable, et elle gémissait de l'antipathie de son beau-fils comme elle eût gémi d'un courant d'air ou d'une domestique désagréable. Elle voulait qu'on l'aimât parce qu'il est infiniment plus agréable d'être aimé que d'être détesté. Antoine devait reconnaître que sa belle-mère lui avait fait 1000 avances, 1000 gâteries, gâteries qui, à la vérité, ne coûtait de peine qu'à la cuisinière, d'argent qu'à la bourse du ménage. Le jeune homme, silencieux, cherchait à dominer son irritation. Sa requête débutait mal. Se creusant l'esprit pour trouver un moyen de renouer la conversation sans trop de mauvaise grâce, il roulait machinalement sous son doigt une boulette de mie de pain.
« Ah, pardon, maman, fit-il en s'interrompant, j'oubliais que vous n'aimez pas cela. »
« Certainement non, dit-elle, mais d'un ton indulgent. Gâcher son pain et salir la nappe, je n'aime pas cela. Mais de tout temps, tu as eu cette habitude quand tu étais préoccupée. »
« Je le suis en ce moment, fit-il, heureux de cette entrée en matière. La pensée de la fâcheuse position où se trouve André me poursuit, fit-il en se tournant vers son père.
Il ne saurait plus être question pour lui de son état de graveur, demanda M. Jacquier avec quelque hésitation, non qu'il eût le moindre doute sur un fait aussi évident, mais il craignait de déplaire à sa femme en rouvrant cet entretien. « C'est une catastrophe, une vraie catastrophe. J'aurais prédit un avenir à ce garçon-là. Il aurait marqué dans l'art décoratif. »
« Moi, je ne le regarde pas comme coulé à fond, interrompit Antoine vivement. Avec son courage et sa patience, il reviendra à la surface. » Et c'est notre devoir de l'y aider.
Assurément, assurément, fit M. Jacquier, dont la bonté naturelle, un peu lente, s'émouvait quand on lui en laissait le temps.
Que pouvons-nous faire pour lui, Antoine?
Eh bien, lui offrir l'hospitalité, par exemple.
Ici, chez nous,
s'écria Madame Jacquier, levant dans un geste effaré ses deux mains grassouillettes.
Tu n'y penses pas, Antoine ? Quand, pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons refusé ce jeune Anglais qui nous aurait payé une bonne pension ?
Ton ami n'a donc ni famille, ni ressources, ni rien ?
S'il avait une famille, je suppose qu'elle l'aurait soigné au lieu de l'envoyer à l'hôpital. Il a un cousin, un brave homme, qui l'a emmené chez lui pour la durée de sa convalescence.
Tu vois donc qu'il est pourvu et j'en suis bien aise, fit Madame Jacquier qui pressa le bouton électrique.
Si décidément tu ne veux plus d'asperges, Antoine, je vais les faire emporter. J'ai le cœur aussi sensible que n'importe qui, plus sensible même. Le malheur de ce pauvre jeune homme m'a bouleversé dès la première minute, tandis que ton père et toi vous en parliez fort tranquillement. »
Ce cousin poursuivit Antoine comme si sa belle-mère n'avait rien dit, et Dubois, le propriétaire de la Touffette. « Vous savez, Sylvie, maigrement. »
« Par avarice ou par toquade, se hâta de dire Madame Jacquier. On m'assure qu'il a du bien. C'est un homme à manie. L'an passé, il était végétarien. Cette année, il fait de l'hygiène knep. Je l'ai rencontré deux ou trois fois, se promenant nu-pied dans la rosée, ce qui me paraît très indécent. Je ne savais où regarder. »
« André Humbert a trouvé là un singulier asile, » fit M. Jacquier.
« Il ne tient qu'à nous de lui en offrir un autre, » dit Antoine. Il n'avait pas le moindre espoir de faire passer une demande aussi exorbitante, mais il plaidait le plus pour obtenir le moins.
« C'est impossible, absolument impossible !» s'écria sa belle-mère, qui eut tout à coup des larmes dans la voix.
« Je ne comprends pas que tu insistes. Pense à la santé si chancelante de ton père. Et si je tombais malade à mon tour ? On me croit forte, on se trompe. Pour un rien, mes nerfs prendraient le dessus. Vider la chambre d'amis qui est encombrée, descendre de la porcelaine et de l'argenterie pour une personne de plus à table, moi qui ne laisse jamais dans le buffet que le nombre nécessaire d'assiettes, de couverts, car les bonnes ébrèchent et abîment tout ce qu'on leur met entre les mains. Déranger le service qui est réglé comme un papier à musique, faire une chambre de plus tous les matins. Et pour qui ? Pour un jeune homme qui ne nous est rien, que je n'ai même jamais vu.
C'est beaucoup demandé, en effet, dit son mari.
Calme-toi, Zéline, je t'en prie. Antoine est généreux, mais inconsidéré. J'étais comme lui à son âge. Nous pourrions faire une chose, ma chère amie.
Quoi donc ? Demanda-t-elle plaintivement, cherchant à atteindre, sans se lever, une petite corbeille d'osier doré sur un guéridon placé non loin d'elle, dans l'embrasure de la fenêtre.
« L'eau de Cologne, Antoine !» fit son père d'un ton impatient. « Le flacon est dans cette corbeille. Tu n'as aucune prévenance. »
« Il ne ressemble pas à son père sous ce rapport !» soupira Madame Jacquier.
« Qu'allais-tu proposer, cher ami ?»
« Nous pourrions inviter André Humbert à dîner ici deux ou trois fois par semaine. »«
Si cela te fait plaisir, Antoine, » dit-elle.
« Grand plaisir, maman, je vous remercie. »
« Mais, » reprit Madame Jacquier d'un ton de subite alarme, « crois-tu qu'il pourra couper sa viande tout seul ? Ces choses-là sont si pénibles à voir. »
Antoine rougit d'émotion et de pitié pour son ami.
« Je m'arrangerai, dit-il, de façon à ce qu'il n'afflige les regards de personne. » Ce long marchandage l'avait écœuré. Il fut heureux de se retirer à l'écart sur le balcon, sa tasse de café à la main, tandis que son père, au fond du petit salon, enlevait la bande du journal et que Madame Jacquier tirait d'un étui les cartes en miniature de son jeu de patience. Il haussa les épaules, il essayait d'être satisfait. N'était-il pas arrivé à ses fins ? Et fort aisément encore. Mais comme il méprisait chez sa belle-mère cette mesquinerie de sentiments et qu'il était loin, en cette minute, de considérer Madame Jacquier comme une épreuve abstraite. Tout de sa part l'offusquait à nouveau. Il se représentait sa figure large et blanche, sa pose molle, et il est détesté d'une aversion d'enfant. Il lui en voulait de sa niaiserie presque autant que de son égoïsme. Il était persuadé, peut-être à tort, que si elle avait eu plus de cœur, elle aurait eu aussi plus d'esprit.
Jamais elle ne trouvait le mot qu'il fallait dire et elle était incapable d'apprécier chez les autres ce qui lui manquait totalement à elle-même, la spontanéité, l'humour, le tact. Sa lourde sottise écrasait tout, réduisait toute conversation à la platitude, tout élan à l'absurdité. Cependant, c'était pour cette femme, inférieure de tout point, songeait-il dédaigneusement, qu'il fallait se consumer, c'était d'elle qu'il fallait recevoir des lois. L'habitude servile était si bien prise qu'il n'avait pas osé aller jusqu'au bout de son plaidoyer pour André Humbert, et il se demandait s'il trouverait ailleurs que dans une colère subite le courage de parler de cette classe du soir qu'il désirait céder à son ami. J'en ai assez de cette vie, qui sentit au même moment combien sa protestation était puérile. L'ordre des choses a-t-il jamais dévié d'une ligne parce que nous lui déclarons que nous en avons assez d'être écrasés sous sa roue